C'est la deuxième partie du message que nous avons déjà commencé sur le salut. Et j'aimerais rappeler un petit peu ce que nous avons dit lors de la première partie de ce message. Nous avons évoqué la souffrance de l'homme, la souffrance morale de l'homme, parce que l'homme a besoin d'être sauvé. Et nous avons vu de quoi? Nous avons vu que l'homme a besoin d'être sauvé de l'esclavage du péché, qu'il a besoin d'être sauvé de l'angoisse de la mort. Qu'il a besoin d'être sauvé du jugement, du terrible jugement qui attend après la mort. On a décrit un petit peu ce jugement. Et aussi, il a besoin d'être sauvé des conséquences éternelles de ce jugement. Il est donc bon de rappeler aux gens qu'ils ont besoin d'être sauvés avant de leur dire qu'il faut qu'ils acceptent Jésus. Nous avons vu que dans toute cette angoisse, cette souffrance morale de l'homme, il y a une bonne nouvelle. Malgré tout, c'est qu'il y a la possibilité vraiment d'être sauvé. Les gens pensent que tout est foutu, il n'y a plus rien à faire, mais en fait, la Bible nous donne une bonne nouvelle, c'est qu'on peut être sauvé de tout ce que je viens de décrire. Et nous avons vu que cette bonne nouvelle, en fait, c'est un peu comme, j'avais dit, les poupées russes, les matrioshkas, où on peut, à chaque fois qu'on enlève une poupée, dedans, il y en a une autre. C'est que dans la bonne nouvelle, à chaque fois qu'on creuse un peu, il y a d'autres nouvelles. Donc en fait, c'est comme s'il y avait plusieurs parties dans la bonne nouvelle. Et on a rappelé quelques parties en disant que bah, tout naturellement, c'est que la première partie de cette bonne nouvelle, c'est qu'on peut être libéré de l'esclavage du péché, mais ce n'est pas tout. Il y a une deuxième partie, on peut échapper donc au terrible jugement dont je viens de parler, le jugement qui viendra après la mort. Il y a une troisième partie, c'est qu'on peut être sauvé de la géhenne, du lac de feu, où seront jetées des personnes qui n'auront pas accepté Jésus. Il y a une quatrième partie encore, c'est qu'on aura part. On peut avoir part à un bonheur céleste parfait, éternel. La cinquième partie, c'est que nous avons vu que pour obtenir ce bonheur, Dieu a conçu un plan extrêmement simple pour accéder au salut. Nous avons vu que dans ce plan, il y a d'abord cinq choses à croire pour pouvoir être sauvé. La première chose, c'est que tous les hommes sont pécheurs et que par conséquent, je le suis aussi. Il faut le croire. Il y a des gens qui ont du mal avec ça, mais la Bible dit qu'il faut le croire. Tous les hommes sont péchés, il n'y a pas d'exception. Donc, moi aussi, je suis pécheur ou moi aussi, je suis pécheresse. Deuxième chose qu'il faut absolument croire, c'est que de par ma nature pécheresse, je suis condamné à la mort éternelle par la justice de Dieu. Troisième chose, je ne peux rien faire pour changer ma nature pécheresse. Je ne peux strictement rien faire par moi-même pour me sauver. C'est ça là, ce qu'il faut croire. Personne ne pourra entrer au ciel en essayant de s'améliorer et d'être assez bon pour mériter le ciel. Voilà, ça, il faut le croire. Quatrième chose qu'on avait dite, qu'il faut croire, c'est que la justice de Dieu, qui découle de sa sainteté parfaite, est telle que le péché, de toute façon, doit être condamné, doit être châtié. Et que Dieu a tant aimé le monde qu'il a conçu un plan par lequel un substitut innocent a été châtié à la place du coupable qui lui est déclaré juste. Donc ce substitut, c'est son propre fils, Jésus. Donc Jésus prend mon péché et me donne sa justice. Ça, faut le croire. Et la cinquième chose, c'est que je ne pourrai en aucun cas me glorifier de mes bonnes œuvres. Le salut est gratuit. Je n'ai rien à payer, parce que Jésus a déjà tout payé pour moi. Voici les cinq premières choses qu'il faut croire d'abord pour pouvoir accéder à ce salut. Et donc on disait que le salut finalement c'est un cadeau. Mais puisque c'est un cadeau, il faut pouvoir le prendre, il faut tendre la main pour le recevoir maintenant de la main de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, comment tendre la main pour recevoir ce cadeau que Dieu nous offre. Premièrement, c'est par la foi qui sauve. Il faut avoir la foi qui sauve. Deuxièmement, par la repentance, et troisièmement, par le baptême. Je vais développer ces choses-là. La première chose, la foi qui sauve. Avoir la foi qui sauve, c'est mettre sa confiance en Jésus-Christ et en lui seul pour être sauvé. On t'a certainement enseigné un grand nombre de choses vraies au sujet de Jésus. Mais on t'a également enseigné qu'il faut faire beaucoup de choses. Il faut faire beaucoup de choses pour gagner le ciel. Il ne s'agit pas là de la foi qui sauve. Quelqu'un dira, mais ne faut-il pas des offrandes, la dîme de ses biens pour être sauvé? La Bible dit, Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte chapitre 16, verset 31. Ne faut-il pas des sacrifices, de la souffrance? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ne faut-il pas des pénitences, des prières? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ne faut-il pas des pèlerinages, des bonnes œuvres? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc ça, c'est la foi qui sauve. C'est uniquement en Jésus-Christ. Deuxième chose, la repentance. Se repentir signifie être profondément navré de ses péchés et vouloir ne plus pécher en se soumettant entièrement à Dieu. Bien entendu, quand je prends cet engagement de ne plus vouloir pécher, ça ne signifie pas que plus jamais je ne commettrai de péché. Mais si jamais tu pèches, il s'agira alors d'un accident, d'une exception, mais non plus d'une disposition profonde du cœur. C'est ça la différence. Si tu arrives de pécher par accident, tu pourras toujours le confesser à Dieu, qui te pardonnera. Il en a fait la promesse. Nous lisons dans la première lettre de Jean, au chapitre 1, versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors, tu te dis peut-être que tu as déjà essayé de te détourner de tes péchés en vain, malgré toute ta volonté et tous tes efforts, ou que tu as même renoncé à essayer tant cela te paraît impossible. Sache que tous les efforts pour nous améliorer sans le secours de Dieu est voué à l'échec. C'est pour cela que Jésus a dit d'ailleurs, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 15, verset 5. C'est-à-dire que celui qui nous a créés peut seul nous changer. Lui seul peut le faire. C'est Dieu qui seul peut changer nos cœurs et c'est lui-même qui nous aide à respecter ses lois. C'est lui qui le fait. Il nous a fait la promesse. Il fait une promesse merveilleuse dans Ézéchiel, chapitre 36. Les versets 26 et 27 nous disent ceci de la part de Dieu. Dieu dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes lois. » Voilà, c'est Dieu qui le fait. Donc ça, il faut le croire. Et la troisième chose importante lorsqu'on tend la main pour recevoir ce cadeau, c'est le baptême. Pourquoi? Rappelez-vous, quand on a parlé de l'annonce de l'Évangile, ce message fait partie de la série de l'annonce de l'Évangile, quand Jésus envoie ses disciples, qu'est-ce qu'il dit dans Marc chapitre 16, versets 15 et 16? « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Cela ne veut pas dire que c'est le baptême qui sauve. Mais il est ici question d'obéissance. Il n'y a pas de salut sans obéissance. Jésus a dit, si vous croyez, faites-vous baptiser. C'est le premier signe d'obéissance. Je crois, donc je me fais baptiser parce que le Seigneur l'a dit. Et d'ailleurs, baptiser vient du grec baptiséin, qui signifie, vous le connaissez sans doute, immerger ou plonger. Il ne s'agit pas d'une aspersion d'eau sur la tête d'un bébé qui ne s'est pas repenti, mais d'une immersion totale reçue dans la pleine conscience de son engagement suite à une véritable repentance. L'apôtre Pierre nous le rappelle dans sa première lettre, au chapitre 3, verset 21, il dit « Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui, dès maintenant, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Il faut d'abord s'engager en pleine conscience et recevoir ce baptême. Et d'ailleurs, dès la première prédication de l'Évangile, après la naissance de l'Église, Actes chapitre 2, verset 38, le même apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il dit aux gens? « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Automatique. Repentance, baptême, ça va avec. Qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On voit l'importance capitale du baptême dans l'affaire. À chaque fois qu'on prêche l'évangile, tout de suite on dit « faites-vous baptiser ». Alors, ce matin, j'aimerais proposer à celui qui n'a pas encore reçu Jésus à faire le pas. C'est une invitation. Je pose donc la question, veux-tu recevoir ce don de la vie éternelle en vue duquel Jésus a quitté le ciel afin de mourir sur une croix pour toi? Si ta réponse est oui, alors tu peux obtenir la vie éternelle dès maintenant, en un instant. Il te suffit de reporter sur Jésus-Christ et sur l'œuvre à la croix la confiance et l'espérance que tu plaçais jusqu'à présent en d'autres choses pour obtenir la vie éternelle. De consentir à te repentir de tes péchés, à t'approcher de Dieu dans la prière, lui dire que tu veux cesser de mettre ta confiance en quoi que ce soit d'autre que lui pour ton salut éternel. Cela paraît tellement simple qu'il est difficile de le croire. Il y a des gens qui trouvent que c'est beaucoup trop simple. On a du mal à croire que c'est vrai. Et pourtant, la Bible donne l'assurance que c'est effectivement vrai. Au fil des siècles, les hommes ont délibérément compliqué le plan du salut, ce plan qui est tout simple. La plupart des gens ne savent pas à quel point Dieu a voulu que le salut en Jésus-Christ soit d'une absolue simplicité. Beaucoup ne le savent pas. Puisque c'est si simple, comment savoir qu'on est sauvé, qu'on a été visité par Dieu? Comment on peut le savoir? Comment on peut le sentir? Enfin, ce n'est pas quelque chose qui soit de l'ordre du tremblement de terre quand cela arrive. Tout se passe de façon absolument paisible. Il n'y a pas de feu d'artifice, simplement un calme merveilleux, une paix au plus profond de son être. Et nous avons un exemple dans la Bible où Dieu va visiter une personne, il s'agit du prophète Élie. Et dans le premier livre des Rois, nous allons lire ceci au chapitre 19, versets 11 à 13. L'Éternel dit, il s'agit de cette rencontre entre Dieu et Élie, le prophète. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» On voit ici qu'Élie s'attendait à ce que Dieu soit dans quelque chose qui déchire la montagne. Mais Dieu est dans une brise légère. C'est toujours paisible quand Dieu nous visite. La Bible nous apprend que Dieu ne sauve pas après la mort. Beaucoup pensent que c'est au jugement dernier que Dieu va sauver ou pas sauver. Mais la Bible nous apprend qu'il sauve dans cette vie, dès maintenant. Et celui qui est sauvé le sait. Dans son amour, Dieu ne veut pas que ses enfants demeurent dans le doute et l'angoisse au sujet de leur salut éternel. Il veut que l'on sache que l'on est sauvé. Et l'apôtre Jean nous le dit dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 13. Donc il écrit aux chrétiens pour les rassurer, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et l'apôtre Paul, pareil, en écrivant aux Corinthiens dans sa deuxième lettre, va répéter la même chose, chapitre 5, verset 1. « Et nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » La Bible nous apprend qu'on a la vie éternelle, on ne l'aura pas. On l'a déjà et on le sait déjà quand on l'a. Celui qui est sauvé, justement parce que la Bible dit que cette personne devient une nouvelle créature. Et quand on devient une nouvelle créature, on le sait. On le sent qu'on n'est plus la même chose. Et c'est toujours Paul, un peu plus loin dans ce que nous venons de lire, au verset 17, il dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc si je suis devenu une nouvelle créature, je le sais. Je le sens. Et en plus, celui qui est sauvé entend l'Esprit de Dieu lui lui témoigner en permanence qu'il est devenu enfant de Dieu et qu'il est devenu héritier du royaume de son Père. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, versets 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Donc celui qui est sauvé, il le sait. Alors ma question c'est, veux-tu devenir enfant de Dieu et héritier du royaume de ton Père, le royaume du Seigneur de l'univers? Alors, voici l'invitation. Je t'invite à mettre ta foi en Jésus-Christ et en lui seul, à te repentir de tes péchés, à t'approcher de Dieu dans la prière. Et j'aimerais qu'on prie ensemble, que je vais proposer juste une prière pour cette invitation à accepter Jésus dans sa vie, à donner sa vie à Jésus. Vraiment une prière simple et que l'on peut reprendre dans son cœur avec moi si on veut accepter ce cadeau merveilleux que Dieu nous fait. Seigneur Jésus, je désire que tu deviennes le maître de ma vie, dès maintenant. Je suis un pécheur, je suis une pécheresse. Jusqu'à présent, je me suis confié en moi-même, dans mes propres bonnes actions et en d'autres choses. Mais désormais, je mets ma confiance en toi seul. Je désire que tu deviennes mon sauveur personnel. Je crois que tu es mort pour moi. Je te reçois comme Seigneur et Maître de ma vie. Accorde-moi ton secours pour que je me détourne de mes péchés et te suive. Je te remercie de m'avoir fait le don gratuit de la vie éternelle alors que j'en étais indigne. Amen. Alors, il y a la question qu'on peut se poser aussi, mais comment être sûr, vraiment, qu'on est sauvé? Après cette prière, après s'être repenti après cette prière, ce qu'il y a, c'est que si ta foi en Jésus-Christ, ta repentance et ta prière sont sincères, alors tu as la vie éternelle. Il n'y a pas de doute. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Juste quelques conseils pour terminer. J'ai reçu Jésus dans ma vie, je sais que je suis sauvé, qu'est-ce que je fais? Juste quelques petits conseils. Demande dès maintenant le baptême. Quand je parle de baptême, c'est l'immersion. Lis la Bible chaque jour et demande toujours à Dieu de t'enseigner pendant tes lectures. Mets en pratique ce que tu apprends dans la Bible et prie chaque jour le Seigneur et prends l'habitude de passer du temps avec lui. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen.